On a tué mon oncle, là, dans mon bar. Mon oncle est mort. Dans mon bar, il y a au moins 3 morts.
La panique en Allemagne. 2 fusillades ont éclaté près de Francfort hier soir. Bilan, 8 morts. La police, ce matin, pense avoir retrouvé le corps du tueur. Nous serons avec notre correspondante Hélène Cole dès le début de ce journal.
La ville de Bordeaux n'a pas connu de second tour au municipal depuis 1947. Et elle pourrait vivre cette année une quadrangulaire. L'anticapitaliste Philippe Poutou pourrait même s'inviter au second tour.
C'est vrai qu'il y a un contexte social qui est particulier. Hein. La bataille des retraites, le mouvement des gilets jaunes depuis un an. Bordeaux, c'est pas juste des belles façades et un tramway, c'est aussi des tas de gens qui souffrent et de pas voter.
Une élection plus qu'ouverte à Bordeaux dans le fief d'Alain Juppé, c'est le résultat de notre sondage exclusif ce matin.
Le gouvernement au chevet des campagnes, un comité interministériel de la ruralité se tient dans les Vosges aujourd'hui. Airbus l'a annoncé hier, la branche défense et espace pourrait supprimer 2300 emplois. Le site de Toulouse sera touché.
Et puis on l'avait annoncé un peu trop tôt à la retraite, le biathlète Martin Fourcade, champion du monde pour la 11e fois. Il fait l'admiration de son frère.
Une petite renaissance, mais en tout cas je n'ai jamais vu mon frère aussi ému, je crois, sur un podium. Cette médaille veut vraiment dire beaucoup.
6h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Marguerite Lefebvre.
C'est donc l'information de la nuit en Allemagne. 2 fusillades ont fait au moins 8 morts. 2 fusillades dans 2 bars d'Anao près de Francfort. On va retrouver tout de suite en Allemagne notre correspondante Hélène Kohl. Hélène, après une chasse à l'homme de plusieurs heures cette nuit, la police pense ce matin avoir retrouvé le corps du tueur.
Oui, à Hanau même, à son propre domicile, aux côtés d'un autre cadavre, pour l'instant non identifié. Dans le coffre de sa voiture, les enquêteurs ont découvert des munitions et un chargeur. D'après la presse, c'est un ressortissant allemand, détenteur d'un permis de chasse. Pour l'instant, la police ne confirme pas cette information, mais elle revoit à l'instant le bilan à la hausse et dénombre désormais 9 morts en ville dans les 2 bars visés dans cette attaque. Il y a d'abord eu après 22 heures une fusillade dans un bar à Chicha. Les témoins parlent d'une dizaine de coups de feu tirés souvent directement dans la tête des clients de l'établissement. Et puis ensuite, une dizaine de minutes plus tard, à 2 km de là, nouveau bain de sang dans l'arrière-salle d'un bar de Paris sportif. Écoutez ce témoin bouleversé.
On a tué mon oncle, là, dans mon bar. Mon oncle est mort. Dans mon bar, il y a au moins 3 morts. C'est le kiosque de Kaiserstadt.
Alors une grande partie des victimes seraient des Kurdes. La police ce matin n'exclut aucune piste. L'hypothèse d'un attentat raciste est évoquée 6 jours à peine après le démantèlement d'une cellule terroriste d'extrême droite qui projetait des attaques contre les musulmans d'Allemagne. Mais on pense aussi à un règlement de compte entre clans, car Hanau est une ville connue ici pour son fort taux de criminalité.
Merci Hélène Collant en direct pour Europe 1 et donc ce bilan revu à la hausse. 9 morts hier soir dans 2 fusillades en Allemagne.
Europe 1, 6h03.
C'est une ville qui élit des maires de droite dès le premier tour depuis plus de 70 ans. Une ville qui pourrait se retrouver au mois de mars avec un candidat d'extrême gauche au second tour.
Cette ville, c'est Bordeaux, le fief d'Alain Juppé. Bordeaux au cœur d'un grand sondage Europe 1 réalisé avec BVA et Orange que l'on vous dévoile ce matin. Les résultats sont saisissants. On pourrait vivre une quadrangulaire au second tour. Stéphane Place, c'est le maire sortant Nicolas Florian qui est tout de même en tête des intentions de vote.
Une avance confortée dans ce sondage pour le maire sortant, l'héritier désigné par Alain Juppé, Nicolas Florian, LR, soutenu par le Modem, revendique un bilan et une expérience municipale.
C'est pas anodin de gérer une ville de 250 000 habitants et une agglomération de 800 000 habitants. Moi, j'ai l'expérience, notamment quand il y a des décisions difficiles à prendre, baisse des dotations, précarité, enjeux climatiques.
Le climat, c'est précisément sur cette vague verte dans une ville en pleine crise de croissance que mise l'avocat Pierre Urmic, candidat écologiste et opposant de Juppé pendant 25 ans.
Cette ville ne peut plus être urbanisée en faisant la part belle à la promotion immobilière. Nous prenons une mesure radicale. On construira la ville sur la ville, uniquement sur des emplacements qui sont déjà urbanisés. La seule force crédible de l'alternance, c'est notre liste.
Déterminé à atteindre le deuxième tour et à s'y maintenir, un invité surprise à gauche, à la tête d'une liste anticapitaliste, Philippe Poutou.
On ne veut pas être juste des chieurs de service pendant un mois et demi, c'est qu'on veut être présent pendant les 6 ans qui suivent. C'est vrai qu'il y a un contexte social qui est particulier, hein. La bataille des retraites, le mouvement des gilets jaunes depuis un an. Bordeaux, c'est pas juste des belles façades et un tramway, c'est aussi des tas de gens qui souffrent et de pas voter.
À un point derrière Poutou, le marcheur Thomas Cazenave promet un regard neuf indispensable, assure le candidat macroniste.
Oui, la ville, elle est belle, mais la ville qui a repoussé ses classes moyennes, qui n'a pas engagé sa transition écologique, la troisième ville la plus embouteillée de France, il faut imaginer de nouvelles solutions. Un peu comme celle de 95. Si Alain Juppé, il a réussi aussi, c'est qu'il est arrivé comme un homme neuf dans la ville. Je crois qu'il nous faut retrouver ce chemin-là.
Quatre candidats susceptibles de se qualifier pour un deuxième tour, une ère nouvelle dans une ville dominée par des maires, élus dès le premier tour depuis 1947.
Merci Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Notez-le bien, Adélaïde Sulvi-Karpassic de BVA Opinion sera notre invitée dans le journal de 7h tout à l'heure pour détailler cette étude bordelaise. Les municipales approchent donc le premier tour, c'est le 15 mars prochain. Et aujourd'hui, un déplacement qui n'est pas anodin. Un déplacement de 7000 membres du gouvernement dans les Vosges sur le thème de la ruralité.
Pour la première fois depuis le début du quinquennat, un comité interministériel à la ruralité est organisé. Il se tiendra ce matin dans les Vosges. Édouard Philippe et six de ses ministres seront autour de la table à l'occasion de faire le point sur les mesures annoncées à l'automne dernier pour redynamiser les campagnes. Dans cet arsenal de mesures, il y avait notamment le redéploiement de certains services publics. À Châteaubriant, en Loire-Atlantique, on s'apprête ainsi à rouvrir un centre des impôts. Reportage de Charles Guyard.
Ça donnera toujours un coup de fouet, ce sera que positif pour les commerçants du centre-ville. Tout le monde est gagnant.
Anne-Cécile Digard de l'association des commerçants de Châteaubriant a toutes les raisons de se réjouir. Sa commune de 13 000 habitants pourrait compter jusqu'à une cinquantaine de familles supplémentaires dans les prochains mois. Des fonctionnaires des finances doivent en effet s'y installer dans le cadre d'une délocalisation des services de l'État. Pour Didier Hélin, membre de la Chambre de commerce et d'industrie, cette hausse de la démographie, c'est un bon moyen de désenclaver la ville prise en étau entre Nantes, Rennes, Laval ou encore Saint-Nazaire.
Toutes les grandes métropoles aux alentours se développe fortement et on a du mal, nous, à maintenir notre niveau d'habitants. On a une taille intermédiaire qui n'est pas suffisante pour attirer les cadres où le conjoint a du mal à trouver du travail sur cette zone. Il faut qu'on attire sur les territoires comme les nôtres. Plus on sera nombreux, plus on a des chances de s'agrandir aussi et d'amener d'autres services.
Un cercle vertueux donc, car plus la population augmentera, plus Châteaubriant gagnera en crédibilité pour réclamer des infrastructures essentielles à l'essor économique d'un bassin fort de 970 entreprises. Châteaubriant, Charles Guyard pour Europe 1.
Une grosse frayeur en Bretagne hier soir, un séisme de magnitude 3,8 a été enregistré dans la rade de Brest. La secousse a été ressentie vers 22h20, elle n'a pas causé de dégâts. L'annonce est tombée en fin d'après-midi hier. La branche défense et espace d'Airbus s'apprête à supprimer plus de 2000 postes en Europe.
2362 postes supprimés très exactement, dont près de 400 en France, notamment sur le site de Toulouse. Une restructuration qui s'explique entre autres par les déboires de l'avion militaire, l'A400M. Les explications à Toulouse justement de Benjamin Péter.
L'A400M ne s'exporte pas et il a contribué à plonger les comptes de l'avionneur européen dans le rouge l'an dernier. Mais ici à Toulouse, où 4500 salariés travaillent pour Airbus Space, c'est surtout le marché des satellites qui inquiète. Guillaume Faury, le PDG d'Airbus, le précisait il y a encore une semaine à l'occasion de la conférence de presse annuelle. Il faut restructurer.
To have a future, we need to be competitive.
Pour avoir un futur, nous devons être compétitifs. Nous devons être capables d'investir spécialement dans ces secteurs technologiques. Nous avons fait face à des commandes très faibles ces trois dernières années. Le marché du spatial est très disputé. Nous ne sommes pas les seuls et nous avons vu les autres souffrir également de cette situation. Donc nous voulons gagner en compétitivité. Évidemment, il y a une dimension sociale quand il y a une restructuration et il va y en avoir une. À Airbus, nous en discutons toujours en priorité avec les employés et leurs représentants. Nous sommes très attachés à ça et c'est la façon dont nous voulons procéder cette fois également.
This is the way we intend to do it.
Alors, pas de surprise du côté des syndicats qui s'attendaient à cette réduction d'effectifs, mais qui entendent qu'elle se traduise par un plan de départ volontaire. Et ce qu'ils redoutent surtout, c'est une fuite des compétences vers des firmes concurrentes. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
C'est une petite phrase qui n'a pas manqué de faire réagir hier. Une sortie du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lors de son interview sur France Inter. Il s'est étonné des leçons de morale d'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Il y a évoqué notamment ses divorces, un règlement de compte sur fond d'affaires Griveaux. Claudia Bertram.
Une petite phrase qui a provoqué l'indignation de toute la classe politique à gauche comme à droite. Agacée par la déclaration lundi d'Olivier Faure sur la légèreté incroyable de Benjamin Griveaux, Christophe Castaner réplique en attaquant son ancien ami du temps où ils étaient tous deux au PS sur sa propre vie privée. Je connais bien Olivier Faure. À titre personnel, je l'ai accompagné dans ses divorces, dans ses séparations. Le ministre de l'Intérieur tente ensuite de calmer le jeu avec un tweet qui en réalité met un peu plus d'huile sur le feu. Quelques heures plus tard, le premier secrétaire du PS dénonce une faute grave.
Une ligne rouge a été franchie. Le fait pour un ministre de l'Intérieur de chercher à intimider l'un des dirigeants de l'opposition en ayant recours à des insinuations relevant de sa vie privée est une atteinte au fondement même de la démocratie.
Olivier Faure demande même à Emmanuel Macron d'intervenir et de convoquer le ministre de l'Intérieur. Hier soir, Christophe Castaner tentait de désamorcer la polémique en présentant ses excuses. Si mes propos l'ont blessé, je les regrette, il n'y avait aucune menace.
Il comparaîtra à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Reda Ham, un djihadiste de 34 ans, recruté par Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats du 13 novembre. Arrêté par les services antiterroristes avant les attentats, il avait prédit le pire aux enquêteurs qu'il interrogeait. Écoutez ce que dit de lui Jean-Charles Brizard, le président du Centre d'analyse du terrorisme.
Reda Ham est un jeune informaticien originaire du 17e arrondissement de Paris, qui effectivement en juin 2015 se rend en Syrie, rejoint l'État islamique et qui a été missionné sur place quelques jours après son arrivée par Abdelhamid Abaoud, donc le coordinateur des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. C'est quelqu'un qui s'inscrit clairement dans la vague de projets d'attentats commandités depuis la Syrie par l'État islamique, avec la particularité pour Reda Ham, la mode opératoire qui est exactement similaire à celui qui sera utilisé au Bataclan, puisque Abaoud préconise qu'il cible un endroit facile d'accès, une salle de concert qui réunit un large public, et précisait même que le mieux était d'attendre les forces d'intervention sur place et de mourir en combattant avec des otages, exactement le mode opératoire des kamikazes du Bataclan.
Jean-Charles Brizard, le président du Centre d'analyse du terrorisme, il répondait à Alain Accot.
Europe 1, il est 6h11.
Les négociations s'annoncent longues et compliquées. Elles s'ouvriront tout à l'heure à Bruxelles et devraient se poursuivre demain.
Les 27 doivent se mettre d'accord sur le prochain budget de l'Union européenne. Ce sera le tout premier budget depuis la sortie de la Grande-Bretagne. En Chine, il y a certes ce bilan qui n'en finit pas de s'alourdir. Le nombre de morts du coronavirus, plus de 2100 morts ce matin. Mais la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que le nombre de nouvelles contaminations est au plus bas depuis un mois. L'OMS salue d'ailleurs les énormes progrès de la Chine dans la gestion de l'épidémie. On apprend cependant la mort ce matin au Japon, cette fois-ci de deux passagers du Diamond Princess, ce bateau placé en quarantaine au large de Yokohama.
En Iran, les électeurs s'apprêtent à voter demain pour élire leurs députés.
Une élection qui intervient en pleine crise politique dans le pays, un mois et demi après les tensions qui ont éclaté avec les États-Unis et alors que la répression fait rage. Notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini s'est rendu à Ispahan, le berceau de la contestation, une région où le scrutin pourrait être boudé.
La tête recouverte d'une capuche, Mérom, 26 ans, préfère s'éloigner pour parler. Il dit être parmi les premiers à avoir manifesté au mois de novembre contre la hausse du prix de l'essence, alors il n'ira pas voter demain.
Quand je me lève le matin, je n'ai rien d'autre à faire que regarder la télé. Si au lieu de construire 10 mosquées, nos dirigeants nous faisaient une bibliothèque ou un centre culturel, ça irait. Mais ces gens-là n'ont rien d'autre en tête que l'islam.
À Ispahan, la contestation et le ras-le-bol ne sont pas une question d'âge. Kourosh, 70 ans, dit avoir travaillé pour les gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime. Pourtant, aujourd'hui, il va même jusqu'à vanter la démocratie américaine.
Je rêve de voir ici ce qu'il s'est passé au Congrès des États-Unis. Cette femme qui déchire devant tout le monde le discours de Trump, c'est inimaginable de voir un de nos députés faire ça. Ils ne peuvent même pas demander des comptes à nos dirigeants. Ils ne sont là que pour faire joli.
À quelques pas de là, la place principale déroule sous les yeux d'une poignée de touristes un décor impeccable, digne des mille et une nuits, l'illusion d'un pays parfait, mais le sentiment que rien ne va. Ispahan, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Aux États-Unis, ses détracteurs l'accusent d'acheter sa campagne électorale à grand renfort de spots publicitaires diffusés à la télé. Le milliardaire Michael Bloomberg, candidat à la primaire démocrate, vient d'essuyer une pluie de critiques cette nuit. Il participait à son tout premier débat télévisé face aux autres candidats. Lui qui, malgré son entrée tardive dans la campagne, est désormais troisième dans les sondages derrière Bernie Sanders et Joe Biden.
Et puis enfin un mot de biathlon. On le disait sur le déclin, mais Martin Fourcade n'a pas dit son dernier mot à 31 ans. Il s'est offert hier son 11e titre mondial sur l'individuel à Antholz en Italie.
Il égale ainsi la légende norvégienne Ole Einar Bjørndalen, un succès salué ce matin par un autre Fourcade, Simon, le frère de Martin.
C'est une petite renaissance, mais en tout cas je n'ai jamais vu mon frère aussi ému, je crois, sur un podium, peut-être lors de son premier titre olympique, mais je pense que cette médaille veut vraiment dire beaucoup, surtout sur une course comme l'individuel qu'il affectionne particulièrement, qui est simplement en fait le reflet de soi-même sur un individuel, enfin, sur des courses avec des formats comme une poursuite, comme une mass start, on se retrouve face à l'adversaire. Sur un individuel, on est face à soi-même, et là on voit que Martin a su faire face et a répondu présent et a renvoyé la plus belle image.
Simon Fourcade, joint pour Europe 1 par Christophe Lamar. Martin Fourcade a donc égalé le record de Bjørndalen avec 11 titres mondiaux. Il peut le dépasser dès dimanche prochain avec l'épreuve de la mass start.
et entrer encore un peu plus dans l'histoire, quelque part, avec record absolu, même s'il égale le record déjà. Impressionnant, Martin Fourcade, toujours impressionnant. On va en reparler, vous savez quoi, dans l'édito sport de Virginie Fulpin ce matin à 7h25. Marguerite Lefèvre, merci beaucoup. Un nouveau journal à 6h30 tout à l'heure, ce sera avec Jérôme Lacroix.